France seront en direct de Berlin pour vous offrir une journée exceptionnelle.
Nous revivrons cette folle nuit qu'ont connue les Allemands de l'Est et nous analyserons la situation.
Pendant toute une journée, un programme multiple pour une antenne unique. Radio France à Berlin, un programme spécial à écouter sur toutes les chaînes de Radio France. Radio France à Berlin, une journée événement à suivre aussi sur France Inter, lundi 9 novembre à partir de minuit.
Toutes les infos sur radiofrancefaitlemur.fr.
France Inter présente Oxmo Puccino, l'arme de paix.
La vie se tire des traits, vivre les sacrifices si près.
En concert à l'Olympia le 7 décembre et en tournée dans toute la France.
Encore un jour sans ombre quand l'Ast est à son zénith. Ma ville un tissu cousu de périphérique, soleil du Nord.
Retrouvez Oxmo Puccino dans le programme musical de France Inter.
France Inter, la différence.
15h04 sur France Inter, l'heure de retrouver Daniel Mermez, c'est là-bas si j'y suis.
Oui, bonjour. J'ai entendu ce matin sur votre antenne François Hollande nous parler de la démocratie de la réussite. Waouh, quel lyrisme! Si avec ça le PS se relève pas aux prochaines élections, ça plus rien y comprendre.
Je suis chargé de vous communiquer le programme du repère là-bas si j'y suis, qui se tiendra ce mercredi 4 novembre 2009 à 19h au Poulailler, place du 14 juillet à Bègles, en Gironde. Sujet, la Poste. Je pense que vous êtes au courant du projet gouvernemental de transformer la Poste en société anonyme et de la soumettre au droit commun des sociétés commerciales dès le 1er janvier 2010 afin de la préparer à la libéralisation totale des activités postales un an plus tard. Face à ce projet, une forte mobilisation a permis l'organisation d'un référendum d'initiative populaire qui a recueilli quelque 2 300 000 suffrages. Quelle leçon à tirer et quelle suite à donner à cette mobilisation? Vous serez en outre invité à évoquer la place de la Poste. Je veux dire la place que tient la Poste et pas la place de la Poste comme la place de la mairie. Non, vous serez invité à évoquer la place de la Poste, la place que tient la Poste dans vos représentations. À ce sujet d'ailleurs, je me dis que toutes celles et tous ceux qui connaissent Thérèse Raquin de Zola ou la petite Roque de Maupassant savent quelles conséquences dramatiques la Poste en tant que service public peut avoir sur la destinée d'assassins occasionnels. Et alors je m'étonne qu'un pouvoir qui affiche l'ambition de renforcer les mesures répressives pour prévenir et punir la délinquance ne soit pas attaché au maintien du service public de la Poste. Mais peut-être Monsieur Sarkozy n'a-t-il pas fini de lire les Rougeons Macquart. Voilà, annonce est passée.
Bonjour, c'est Séverine. Je voulais vous transmettre une excellente nouvelle qui concerne tous les AMG de Guadeloupe. Vous dire que le repère de la Bastille-Vissuy en Guadeloupe renaissait après une période assez tumultueuse et que nous tiendrons donc notre première réunion de rentrée ce samedi 7 novembre à 10h. À Pointe-à-Pitre, au bar-restaurant L'eau à la bouche, qui se trouve 6 rue Saint-Jean-Perse à Pointe-à-Pitre. C'est la rue qui est entre le marché aux épices et la Darse, et dans laquelle le samedi, il y a très souvent des joueurs de cas.
Ceci est un message pour tous les AMG de la Côte d'Azur. Retrouvons-nous ce mercredi 4 novembre à 18h au Cybermouton de Grasse. On parlera de l'implantation du magasin IKEA Family à Mougins. Il y aura les pour, il y aura les contre et il y aura un super débat à ce sujet. À bientôt, merci.
Le prochain repère de Poitiers, c'est ce soir à 20h au minima. Et on parlera des alternatives au travail salarié. Et puis on essaiera de répondre à cette question. Avons-nous encore le droit à la paresse? Alors bande de feignants, de tout bord, de tout poil, venez ce soir au Minima Café, Grand Rue 156 à Poitiers. C'était Sylvain, allez ciao.
Salut Daniel, je t'appelle parce que tu vois, avec cette histoire du mur de Berlin, les 20 ans, puis tout ça, tu vois, tout le monde parle de la Stasi, mais la PIDE de Salazar, est-ce que personne n'en parle? La police secrète de Franco, est-ce que quand on a fait des reportages, on parlait, personne n'en parle, tu vois, en secret. Par exemple, la DGST, DGSE, on a le FBI. N'importe quel pays a son service secret. Ça me choque, c'est tout ce qu'on a à dire du mur. J'en ai vu tellement de reportages que maintenant ça commence à me sortir par la tête, le mur de Berlin.
Oh, mais c'est pas fini, cher AMG, la commémoration du 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Si vous n'avez pas la chance, comme nous, Radio France, de vous rendre à Berlin, eh bien, sachez qu'il y aura un grand spectacle musical commémorant la chute du mur de Berlin en 1989, qui aura lieu le 9 novembre, place de la Concorde à Paris, qui est un geste fort exprimant la solidarité entre la France et l'Allemagne. C'est un spectacle qui durera 25 minutes, inspiré par le concert improvisé en 1989 à Berlin, par le violoncelliste russe émigré Rostropovitch, comme vous le savez. Et le spectacle sera tout à fait extraordinaire et tout à fait remarquable, et sera financé, soutenu par aussi bien EADS, Areva, Total, Veolia, qui financeront tout cela à hauteur de 795 000 euros, participeront également au financement de cette célébration le Air France, EDF, Generali, LVMH, Orange, PSA, Sanofi, Aventis, ainsi que la Fondation pour l'Entente Franco-Allemande. Voilà, ce sera une très grande célébration. Vous savez, on finit toujours par ressembler à son ennemi. Eh oui, on finit toujours par ressembler à son ennemi. Et très peu de temps avant la chute du mur de Berlin, on fêtait le 40e anniversaire de la naissance de la DDR, de la RDA. En grande pompe, alors évidemment, c'était pas financé de la même façon, c'était pas le même type de cérémonie et de défilé. Là, on faisait défiler des chars et des engins militaires, mais voilà, on finit toujours par ressembler à son ennemi. Aujourd'hui, on part pour Berlin, dont je reviens, et on y retournera lundi prochain. On sera en direct depuis Berlin. Mais là, aujourd'hui, eh bien, on va, avec ceux qui ne participeront pas forcément à la fête, faire un tour, non pas à Berlin même, mais dans les Neues Länder, c'est-à-dire l'ex-RDA, l'ex-DDR, car on se demande bien pourquoi les Berlinois ne sont pas plus gais à l'approche de cette commémoration. Et pourquoi lundi prochain ne sera pas un jour férié, ne sera même pas un jour férié. Il y a peut-être des raisons à cela que cette émission et les suivantes nous aideront à comprendre et à découvrir. Auparavant, encore quelques messages. Parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassie, j'y suis au 01 56 40 37 37.
Salut à vous tous de là-bas. Salut à toi, ô auditrice. Auditeur, un petit salut tout particulier à Monsieur Claude de Bègle, dont la voix qui nous chante une grande tendresse m'avait l'air un peu déprimé récemment. Un message d'espoir, le repère de Perpignan continue de plus belle, malgré la mondialisation de la morosité et du désespoir. Venez nombreux, jeudi 5 novembre, à partir de 18h30, au bar Le Lisboa, place Rigaud.
Oui, salut Daniel, c'est l'histoire de Jacques 60 ans et de Roi 50 ans. Jacques, il est foncé, pas de problème. Roi, c'est une petite femme d'à peine 1m60 pour 50 kilos, elle est chinoise et là du coup il y a problème. Ça fait 10 ans qu'elle est en France, Roi, 5 ans qu'ils vivent ensemble avec Jacques en concubinage, sans jamais s'être cachés, 5 ans qu'ils ont entamé les démarches pour que Roi, elle obtienne la nationalité française. Elle a appris à parler français, elle a une promesse d'embauche en CDI il y a plein de temps. C'est une voisine, et je peux en témoigner, très agréable, un modèle de transparence, d'intégrité et d'intégration. Avec son compagnon, ben voilà, avec Jacques, quoi, il répond à toutes les obligations que messieurs Sarkozy, Hortefeux, puis Besson et consorts exigent. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, Roi, elle est au centre de rétention, de Cornemarieux, près de Toulouse, après un simple contrôle d'identité inopportun. Donc son compagnon, Jacques, elle-même, attendent tout le soutien qu'il mérite. Merci de le relayer. Aujourd'hui, tous les recours administratifs ont été faits. Une manifestation est organisée devant la préfecture d'Albi, ce samedi à 11h. Cette histoire a été relayée par tous les médias locaux. Merci merci de le faire à votre tour grâce à là-bas si j'y suis. Merci. Donc rendez-vous préfecture d'Albi, devant la préfecture d'Albi, ce samedi 7 novembre à 11h pour soutenir Rouen. Voilà.
Attention à MG du Pas-de-Calais, n'oubliez pas la réunion du repère ce jeudi 5 novembre, toujours chez Tartous et compagnie à Monchy-Breton à partir de 18h30. Un délégué syndical de France Télécom nous informera de l'évolution de la situation, etc., etc. Les sujets ne manquent pas.
Il est 19h30, journal de la télévision est-allemande. Exceptionnellement, aucun titre place immédiatement aux images choc de la journée.
Antenne 2.
Dans les rues frontalières de Berlin-Est, des files d'attente de Trabant partant vers l'ouest.
10 novembre 1989.
Des postes frontières et des tampons distribués à tour de bras sans problème. Et des employés d'usine qui partent en équipe visiter l'autre côté du mur, juste pour voir. Mais immédiatement, le commentateur insiste sur un fait. Tous ces gens reviendront ce soir. Ils ne partent que par curiosité faire du shopping chez nos voisins de l'Ouest. Durant plus de 13 minutes ensuite, vient Friedrich Dickel, le ministre de l'Intérieur. Il explique en détail les formalités pour les départs. Elles seront sans problème, promet-il. Il combat la bureaucratie et veut la liberté pour son peuple, ajoute-t-il. Preuve à l'appui, ces images en direct. Le journaliste souligne l'extraordinaire facilité pour passer à l'Ouest. Mais surtout, il parle d'ordre et de discipline. Il parle de la bonne ambiance. Image extraordinaire, c'est Vaupaud, policier détesté hier, qui reçoivent aujourd'hui des fleurs pour un tampon. Dans Berlin-Est, actuellement, se déroule une manifestation de soutien à Egon Krenz, l'auteur de ce grand chambardement. Conclusion inattendue de son discours. Les bars de l'Ouest, dit-il, où vous irez ce soir faire la fête, accepteront vos marques de l'Est. Au vu de la valeur quasi nulle de cette monnaie locale, un geste appréciable pour ceux qui depuis un mois secouent leur joue depuis Berlin-Est.
Mais vous aviez la télé?
Ja.
Ah, il y a aussi la télévision de l'Ouest. Oui, oui, on ne vivait pas dans la vallée des ignorants comme certains le prétendent.
La vallée des ignorants? Et vous aviez de la radio aussi?
Parce que Goebbels, qui faisait des discours donc à la radio, il parlait tellement, c'était vraiment tout le temps en train de parler, de tenir des discours, et c'est pour ça qu'on avait fini par appeler la radio elle-même d'où sortait ses discours, la gueule de Goebbels.
C'est formidable. C'est-à-dire que la radio avec le bouton et le cadre, c'était la gueule de Goebbels. Salut, c'est Daniel Mermes, c'est là-bas que j'y suis. Eine bescheidene und geniale Sendung. Avec Guy Van Til, tenez votre cœur prêt. Alors là, ce qui est extraordinaire, c'est que s'il n'y a rien de tellement extraordinaire. On a quitté Berlin, on a fait 1h30 de voiture pour rencontrer des gens. Oh là, c'est joli! Qui font leur jardin, qui viennent chaque fin de semaine, ici, dans cet ensemble de petits jardins et de petites maisons. C'est la datcha, hein, c'est comme en Russie. Ou le week-end, on va à la campagne. C'est au-dessus de la zone commerciale, hélas. Mais c'est quand même très très sympa. Les petites chrysanthèmes, les roses trémières, un peu de thym, des tournesols. Voilà, un accueil vachement chaleureux. Et ça, c'était la passion des gens au temps de la RDA, c'était d'avoir son jardin. D'avoir son petit jardin. Ah ouais, c'est sympa, la petite, là, c'est la cabane, c'est la baraque.
On sent la nappe, on a vu.
La nappe, ouais, on est bien reçu. C'est bien.
On va tirer un coup.
Plus imprenable sur le sigle McDo depuis ce petit jardin de Neubrandenbourg, c'est-à-dire dans les nouveaux Länder de l'Est avec Burkhardt, Dietlinde et la maman qui s'appelle Christelle. Le 10 prochain, le 9 novembre, ne sera pas un jour si extraordinaire que ça. Ah, comme l'homme aime lécher ses chaînes et ses chefs. Avec effroi, avec pitié et avec mépris, le monde libre s'apprête à fêter les 20 ans de sa victoire sur l'hydre communiste. L'effroi devant le mur de la honte, devant les prisons de la Stasi, la surveillance de tous par tous, la délation organisée. Pitié à l'écoute des récits, des souffrances, des privations. Pitié devant cette grisaille. Pitié devant ces 14 années qu'il fallait pour obtenir une voiture. Comment ont-ils pu supporter tout ça? Ah! Comme l'homme aime lécher ses chaînes et ses chefs. Envers ce système, ce régime, cette dictature, nous n'éprouverons que de l'effroi. Et vraiment, en comparaison, comme c'est merveilleux ici, comme nous sommes libres. Et d'ailleurs, la comparaison n'a plus lieu d'être. La comparaison, c'était bon au temps de la guerre froide, où l'on essayait, dans une balance, de peser et de supposer aussi les vertus, les valeurs et les crimes et les délits d'un camp et de l'autre. Mais depuis ce jour fatidique, c'est terminé, la comparaison n'est plus possible. Comparaison impossible, c'est évident, il n'y a pas d'alternative, il n'y a plus d'alternative. Notre système à nous n'est même pas un système. Idéologie, c'est eux, pas nous bien évidemment. C'est ce système dans lequel nous sommes, l'économie de marché, la concurrence, tout cela bien c'est aussi naturel que la loi de la gravité. Et puis voilà tout, et puis c'est terminé. On oublie dans cette affaire, et c'est pas le moindre des crimes, d'oublier ceux qui, de l'intérieur même de ce pays, pendant de longues années, avec critique, avec courage et avec sens de la dissidence, voulaient que leur pays devienne autrement. C'était pas exclusif à la RDA, c'était en Pologne la même chanson, c'était en Hongrie, c'était en Tchécoslovaquie, c'était un peu partout que des hommes et des femmes souhaitaient autre chose, mais qui n'était pas le signe McDo au-dessus des jardins, qui était autre chose. Et cette autre chose-là, ben, n'est pas venue. Et ceux qui rêvaient de cette autre chose-là, que ce soit entre eux, dans la clandestinité, ou dans leur église, ou dans leur temple, eh bien, ceux-là, lundi prochain, ne seront sans doute pas à la fête, ne participeront pas à la fête des vainqueurs. C'est toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire. L'histoire est toujours écrite par les plus forts. Mais pour combien de temps? On ne sait jamais ce que sera le passé. C'est jusqu'à 16h sur Inter. Là-bas, si j'y suis, tenez votre cœur prêt. Eine bescheidene und geniale Sendung.
This is again Radio Yerevan.
I'm sorry. Bitte turn on the machine. This is Radio Yerevan. My name is Hans Ivanovich Hagen. And this is the news. I was born in '66. Oh, my mom is wrong. My father was a junkie. Und wir waren sehr arm. My brother was a soldier.
Soviet Union.
Il y a un petit rayon de soleil, c'est agréable comme tout. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Dietlinde, Burkhardt, Christelle.
Et la maman.
Christelle, la maman. Ah ouais. D'accord, d'accord. D'accord, vous habitez ici, Christelle?
Neubrandenburg.
Oui, à Neubrandenburg.
Ça, vous n'avez jamais quitté?
Nein, eigentlich nicht.
Non.
Alors vous, vous avez vécu toute l'aventure de la DDR. Donc vous vous souvenez, vous avez connu la création de la DDR et la fin de la DDR.
Die habe ich miterlebt, ja.
Oui, je l'ai vécu.
Je regarde le paysage, là. Je me dis qu'il y a au moins une chose qui a changé en 20 ans. C'est le signe de McDonald's qu'on voit, là. Ça, c'est une chose qui a changé. Ja, klar.
Wir gehen dort niemals hin.
On n'y va jamais.
Vous n'avez jamais emmené votre mère au McDonald's?
Nein, ich war da noch nicht drin.
Non, j'ai jamais été.
Es ist kein Zeichen einer Niederlage, es ist ein kultureller Rückschritt.
C'est pas une défaite, mais c'est le signe d'un retour en arrière culturel.
D'une régression culturelle.
Une régression culturelle, exactement.
Qu'est-ce que vous allez faire pour ce 9 novembre? Comment vous allez célébrer ça? Vous allez faire une fête ou bien vous allez regarder un peu la télé ou bien rester au jardin?
Also Fernsehen können wir nicht sehen, weil wir gar kein Fernsehapparat haben, aber feiern garantiert auch nicht. Also ich weiß jetzt im Augenblick nicht, was das für ein Wochentag ist, aber wahrscheinlich wird es für uns ein ganz normaler Tag.
Regarder la télévision, on ne peut pas le faire de toute façon parce qu'on n'a pas de télévision. Je ne sais pas encore exactement quelle journée ça sera, mais je pense que pour nous, ça sera une journée comme une autre. On ne fera rien de spécial ce jour-là.
C'est pas une... Il va y avoir le président Sarkozy lui-même qui va venir. Mais ça vous fait rire. Alors le président de la France, ça vous fait rigoler?
Sylvia, alors peut-être qu'on va faire la fête quand même. Hein.
Et il y a 20 ans, qu'est-ce que vous faisiez alors ce jour-là?
Vor 20 Jahren, als die Mauer gefallen ist, am 9. November war ich arbeiten und wir haben Radio gehört und es wurde gesagt, dass die Mauer fällt. Und ich hab's nicht geglaubt.
Il y a 20 ans, je suis allée au travail et on avait la possibilité d'entendre la radio et on a entendu que le mur était tombé et je l'ai pas cru.
Ich hatte Angst, als die Mauer gefallen ist, weil ich wusste, es wird der Kapitalismus über uns hereinbrechen.
J'ai eu peur quand j'ai appris que le mur était tombé parce que je me suis dit que maintenant le système capitaliste allait nous envahir.
Mais nous, on nous a représenté les gens de l'Est venant, traversant le mur, ébahis, heureux, libérés, etc. Vous vous êtes dit ce jour-là, le capitalisme va nous envahir, c'était votre sentiment?
Also ich hatte wirklich Angst, als die Mauer gefallen ist, weil mir klar war, mit dem Fall der Mauer wird es kein sozialistisches Projekt mehr geben.
Oui, j'ai eu peur quand j'ai appris la chute du mur, parce que j'ai su que avec la chute du mur, il n'y allait plus avoir de projet socialiste.
C'est votre sentiment aussi, Burkhardt?
Ja, man muss auch noch sagen, dass es damals ja eine Zeit war, in der sich sehr viel veränderte. Ich glaube, am 4. November gab es diese große Demonstration auf dem Alexanderplatz zum Beispiel.
Il faut dire aussi que c'était une période où beaucoup de choses étaient en mouvement. Il y avait eu par exemple le 4 novembre une manifestation sur le Alexanderplatz.
Und man hat in den Tagen viel darüber nachgedacht, wie sich das alles entwickeln wird. Und mit dem Fall der Mauer war plötzlich für mich klar, dass es alles nur noch auf einen ganz schnellen Beitritt der DDR zur BRD hinauslaufen wird.
Et à l'époque, on avait l'impression de pouvoir faire bouger beaucoup de choses. Et le jour où nous avons appris que le mur tombait, nous avons su que finalement il ne s'agissait plus que d'une annexion de l'Allemagne de l'Est à l'Allemagne de l'Ouest.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous regrettez de cette époque? Qu'est-ce que vous regrettez cette époque?
Vermissen, was natürlich sozusagen der Zusammenhalt der Menschen, der war bisschen enger. Das ist jetzt jeder ist sich jetzt selbst der Nächste. Die wollen alle nur Geld verdienen und reich werden. Das ist schwierig jetzt. Das ist echt schwierig jetzt. Aber ansonsten würde ich sagen, vermissen, nö.
La cohésion entre les gens, la solidarité entre les gens, c'est ce qui manque aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ne pensent qu'à gagner de l'argent et accumuler des choses. Oui, c'est la seule chose qui était peut-être mieux avant.
Une révolution volée. Une révolution volée, une révolution qui venait de l'intérieur de ce pays. Et Bocart et Dick Linde qui ont participé le disent là. Et voilà, c'est ce sentiment qu'on retrouvera très souvent chez ceux qu'on appelle les ossis, ceux de l'Est. Face à ces célébrations aujourd'hui, certains d'entre eux sont tout à fait ravis, fous de joie de célébrer tout ça. Mais pour la majorité, je me risquerais à dire que la large majorité, c'est ce sentiment qui prévaut. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle l'ostalgie, c'est-à-dire la nostalgie de l'Est. Alors, il y a tout un côté folklore là-dedans, amusant, rétro, avec les vieilles trabans, les trabis, les voitures, les la façon dont on s'habillait, on aime célébrer ça, surtout à la suite du fameux film Goodbye Lenin. Mais il y a ça, il y a tout ce côté là, un peu une mode, disons. Et puis, il y a cette réflexion plus profonde qui n'aura pas cours au cours de ces jours prochains, mais qui est là, bel et bien, tenace et profonde.
Est-ce que vous voulez voir
la petite maison
de la RDA?
Ah.
Et ça aussi.
Ah, c'est le style RDA.
C'est ça.
Ah oui. C'est vrai que tout était fabriqué en RDA. Hein.
Oui, c'est vrai.
Oui. Il y a une esthétique particulière. Bon, mais il faut les garder, ça va valoir des fortunes. Quoi? C'est l'esthétique RDA. Ah oui, à l'intérieur de l'armoire, il y avait une page d'un journal ou d'un prospectus découpé qui représentait...
Oui, c'est ça. Ici, voilà.
Ah, une plage.
Des paysages.
Des paysages avec des plages. Et là, c'était un lecteur de cassette, la photo d'un lecteur de cassette. Les cassettes. L'ambiance RDA. La nostalgie. Ça, c'est un petit coup de nostalgie. Ok. Bye bye. Danke schön.
Merci encore,
Florian. Danke schön. Auf Wiedersehen. Danke schön.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Es ist die Geschichte eines sehr, 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 sehr reichen Mannes. Die beiden steigen einen Hügel hinauf. Oben angekommen, sagt der Mann zu seinem Sohn. Schau dir das an. Eines Tages wird sehr, 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 sehr. Armer Mann. Gekommen, oben angekommen, oben angekommen, sagt der Mann zu seinem Sohn. Schau dir das an. Schau dir das an. Sehr grausam, aber sind Sie sicher? Es ist nur ein Märchen.
Maxime, dis-moi le titre du livre.
Haltet euer Herz bereit. Tenez votre cœur prêt. Bien, en fait, une chanson qui était chantée à l'époque.
Tenez votre cœur prêt.
Parce que l'histoire de la RDA était une affaire de cœur de notre famille. Et c'était non seulement une conviction, mais c'était aussi une affaire amoureuse. Hein.
Alors, on va essayer de retracer l'histoire de cette famille, la famille Léo. Là, il y a ta maman qui est en face, mais il y a les arrière-grands-parents, grands-parents, parents. Comment tu t'y prends pour raconter tout ça?
Le point de départ, c'était que j'ai rendu visite à mon grand-père à l'hôpital, et il avait une attaque cérébrale, donc il ne pouvait plus parler. Alors pour mon grand-père, la langue était la chose la plus importante, parce qu'il était journaliste, écrivain, et... Et là, il était là sans pouvoir parler, et c'était à la fois quelque chose de très grave pour lui, mais moi, j'étais content aussi parce que il pouvait plus me contredire. Et comme c'était toujours un peu la grande éminence politique, idéologique de notre famille, je me sentais un peu libéré ce jour-là, libéré de cette autorité qui dominait notre famille. Et je suis reparti à la maison et j'avais un peu l'impression que la RDA avait fini ce jour-là seulement, alors que c'était 18 ans après la chute du mur.
Voilà, Maxime Léo. On retrouve à Berlin Maxime Léo. Les auditeurs qui nous suivent depuis des années se souviennent peut-être des reportages que nous avions fait ensemble à Strasbourg avec lui, ou bien alors un exploit qu'il avait commis pour son journal Berliner Zeitung, qui était une interview de Catherine Maigret, vous vous souvenez, Catherine Maigret, Vitrolles. Il avait réussi à l'interroger, à l'interviewer, et c'était assez formidable. Donc voilà, on le retrouve autour d'un livre qu'il a publié en allemand et qui sera sans doute très prochainement publié en français sur l'histoire de sa famille. Parce que à cette RDA, il y a une histoire, bien évidemment, il y a un contexte historique. On peut pas comprendre la chute du mur de Berlin si on comprend pas pourquoi le mur a été construit et pourquoi ce pays a existé. Et ce pays a existé sur un élan formidable, une foi dans l'avenir formidable, sur la légitimité morale d'un certain nombre d'hommes et de femmes qui avaient lutté dans la résistance, qui parfois, comme c'est le cas du grand-père de Maxime Léo, Gerhard Léo, était passé par les camps dont ils avaient réchappé et était, comme c'est toujours le cas de cet homme-là, Gerhard Léo s'était battu dans la résistance française. Donc il y avait ces hommes formidables qui étaient la légitimité morale de ce pays. Pourquoi, comment cette énergie, cet espoir, cette force s'est épuisée si rapidement? Ça restera une question, mais qui doit être posée, et les réponses doivent être données. En attendant, Maxime Léo, qui avait 20 ans, il y a 20 ans, a voulu raconter l'histoire de sa famille. On est là ensemble avec sa maman, qui s'appelle Anne ou Annette Léo, et qui est une historienne, une grande historienne, et l'évocation de la famille commence. Alors, on va demander à la maman, Annette. Alors, le papa en question, c'est Gerhard Léo, qui était un intellectuel, un journaliste, qui
qui était francophone parce qu'il a longtemps vécu en France et qui était une des figures de la RDA. Et qui n'avait pas du tout les mêmes idées que Maxime.
Oui, c'est vrai. Il était vraiment à cause de sa vie comme enfant juif persécuté et en tant que résistant en France. Il était vraiment un communiste très convaincu qui, après la libération, 1945, il voulait absolument rentrer en Allemagne pour y construire une société meilleure. Ça veut dire le socialisme. Les idéaux communistes qu'il avait.
Et donc, il était journaliste en France, il était correspondant.
Il était correspondant de ce journal central de la SED, Neues Deutschland, à Paris.
C'était un apparatchik, on peut dire un apparatchik?
D'une façon, oui, parce qu'il a suivi toutes les règles de cet appareil. Il a fonctionné dans ce système. Et en France, il était tout à fait un autre homme qu'en RDA. Il avait gardé pour soi-même un petit royaume qui ne faisait pas partie de cette RDA. Mais pour nous, nous étions trois filles à la maison, pour ses filles, il a toujours voulu que nous croyions à ses idéaux. Et c'est pourquoi c'est devenu très, très difficile, lorsque je suis devenue adulte, de pouvoir discuter avec lui. C'était presque impossible.
Et vous partagez son point de vue ou vous avez commencé à critiquer? Vous avez pris des distances avec ces idées-là?
Oui, à partir de 18-20 ans, j'ai commencé de regarder la réalité en RDA avec mes yeux. J'ai fait mes propres expériences et c'est pourquoi j'avais des opinions propres. Et par exemple, si j'ai voulu parler avec lui sur les prisonniers politiques en RDA, il a dit toujours « non ». Ça doit être pas grave. Moi, je connais les prisons du temps de nazis et on ne peut pas du tout comparer et toute la discussion est finie à ce point, par exemple.
Dès le début de février 1933,
Gérard Léo,
lorsqu'il y avait des fêtes,
1999,
on chantait déjà l'hymne des nazis, lever le drapeau, die Fahne hoch. Et l'hymne allemand, le Deutschlandlied. Et on demandait aux élèves d'élever leurs bras, n'est-ce pas, pour le salut hitlérien. Et moi, j'étais au milieu de mes camarades, et je levais le bras et je faisais semblant de chanter. Ça, mon opposition se limitait à cela. Mais il y avait une jeune fille de mon âge, dans ma classe, qui était la fille d'un militant communiste. Elle s'appelait Elisabeth May, je m'appelle. Mon père avait défendu son père dans un procès et on se connaissait. Et elle n'avait pas levé le bras. Et elle a été appelée devant l'instituteur en classe. Quand nous étions revenus en classe, on dit « tu n'as pas levé le bras et tu n'as pas chanté ». Et il lui a donné une paire de gifles. Et moi, je pensais, il faut que je me lève maintenant et que je dise que je n'ai pas chanté non plus. Mais je ne me suis pas levé. Je suis resté à ma place. C'était une leçon terrible pour moi. Et je me suis dit, ah, ça c'est la dernière fois que je serai un lâche. Je me suis dit, quand une nouvelle épreuve arrivera, je saurais me défendre, n'est-ce pas? Et ça m'a accompagné pendant toute ma vie, je dois dire.
Maxime, comment tu t'entendais avec ce grand-père?
Je ne le connaissais pas très bien parce qu'il était toujours parti. Il était à Paris. Pour moi, c'était le grand-père de l'Ouest qui amenait des cadeaux, qui conduisait Citroën. Donc pour moi, c'était le grand-père de l'Ouest et qui était assez gentil avec moi. Mais qui pouvait devenir aussi assez ferme et assez fermé quand il s'agissait de parler de la politique. Parce qu'il y avait des limites. Il aimait bien parler de la résistance, de son combat en France, de la France. J'ai commencé à aimer cette France à travers ses récits et à travers ses histoires. Surtout, une fois, on a fait un voyage en 86 en France. Hein, c'est ce qui était quand même assez exceptionnel parce que c'était quand même une chance inouïe pour quelqu'un qui a 16 ans en RDA de pouvoir voyager en France. Et quand on est arrivé en France, j'ai vraiment vu se transformer dans quelqu'un qui était du coup beaucoup plus détendu, il était drôle, il était français. Il est devenu quelqu'un d'autre, il a même fait des blagues sur les ADA. Hein, un soir, on était au vieux port de Marseille, dans un restaurant. Ils aimaient beaucoup des huîtres et du champagne. Donc il a commandé des huîtres et du champagne. Et il m'a demandé, mais tu as appris à l'école que le capitalisme était en train de mourir? Et je dis oui. Il a dit, mais c'est quand même une belle mort, non? Ah. Et c'était la première blague que j'ai entendue de lui sur la RDA. Et plus tard, on était dans la maison de Gilles Perrault, parce que Gilles Perrault était un bon ami à lui. Et il y avait là Régis Debray. Et ils m'ont tous raconté comment la RDA était bien et fort, et comment les Français adoraient la RDA. Parce que Régis Debray, à l'époque, était conseiller spécial de Mitterrand. Et je me souviens, on était à Gordes, hein, près d'Avignon. Il faisait bon, on a bien mangé. Et je me suis dit qu'il faut peut-être être à Gordes, près d'une piscine, pour adorer la RDA. Hein, parce que j'étais assez sûr que ces gens n'ont jamais été là-bas, qu'ils ne savaient pas du tout de quoi ils parlaient. Mais la RDA, pour eux, c'était en quelque sorte une image aussi fausse et aussi imaginaire que mon grand-père aussi avait de ce pays. Donc, dans ce sens-là, les communistes français et mon grand-père étaient tout à fait d'accord.
C'était une illusion que ces intellectuels français avaient, mais votre père, Annette, nourrissait cette illusion.
Je sais seulement que mes parents n'avaient pas des amis qui étaient des Allemands normaux. Tous les gens de son âge avaient une telle biographie. Et d'ailleurs, lorsque j'étais enfant, petit enfant, je pensais toujours que presque tous les gens en RDA étaient dans la résistance, dans le camp de concentration ou en exil. Et c'était seulement plus tard que j'ai compris que c'était seulement une toute petite minorité, un peu isolée en RDA, mais qui était quand même une partie du pouvoir.
Ainsi s'écrit l'histoire avec un grand H et l'histoire avec un petit H, si toutefois ça, ces différences ont encore un sens, c'est-à-dire avec les histoires, le cœur des hommes, la passion des hommes, l'amour des hommes, qui est broyé par l'histoire et qui font aussi l'histoire, qui y contribue. Un homme qui rentre dans la résistance entend faire l'histoire. Un homme qui s'engage à la construction d'un pays comme celui-là veut faire l'histoire. Dans la RDA et dans beaucoup de ces pays, on a vu des hommes arriver qui s'étaient battus contre le franquisme en Espagne, qui étaient dans les brigades internationales, qui étaient dans la résistance, etc. Et donc des hommes qui voulaient faire l'histoire. Et puis, voilà, le temps est passé, phénomènes divers et variés, des illusions aussi, des fois trop grandes, des aveuglements, des mensonges, des concessions petit à petit, font que l'histoire des rats s'enfonce et les vainqueurs n'ont plus qu'à prendre le fruit mûr et pourri du temps. Alors là, on évoque ton grand-père, votre père, Annette, mais il y a toute une histoire bien plus ancienne que tu évoques dans ton bouquin, évidemment.
Bah, le point de départ, c'était peut-être un procès que mon arrière-grand-père avait fait contre Joseph Goebbels, qui est devenu le ministre de la propagande du Troisième Reich plus tard, parce que Goebbels avait prétendu qu'un officier français l'avait torturé pendant la Première Guerre mondiale et qu'il avait un pied mal formé à cause de ça. Et ce général français a porté plainte contre Goebbels et a pris mon arrière-grand-père comme avocat. Et mon arrière-grand-père pouvait assez facilement prouver que Goebbels avait tort, parce qu'il y avait une photo du petit Goebbels dans sa classe avec son pied mal formé, déjà à 6 ans, donc il était prouvé qu'il avait tort. Mais l'avocat de Goebbels avait annoncé que si jamais les nazis prenaient le pouvoir, il allait s'occuper de mon arrière-grand-père. C'est ce qu'ils ont fait. Quelques jours après la prise du pouvoir, ils ont arrêté mon arrière-grand-père, l'ont mis dans un camp de concentration. Et c'était peut-être ce moment-là qui a le plus marqué mon grand-père Gerhard, qui a vu cette scène depuis sa fenêtre. Il a vu comment la SA l'a battu, comment ils l'ont pris dans la voiture. Il a hurlé et je crois, et c'est lui qui l'a dit aussi plus tard, que c'était le moment où il est devenu résistant, à 10 ans. Et après, ils ont dû quitter l'Allemagne, ils ont fui via la Belgique et sont allés en France. Et c'est là où il a grandi, et c'est là où il a eu sa scolarité. Et c'est là où, quand l'armée allemande est arrivée, plus tard, il a rejoint la résistance. Et je crois que Gerhard, il s'est pas vraiment posé la question. Pour lui, c'était naturel qu'il va combattre ces gens.
Alors, mais il y a aussi toute la branche de ta grand-mère aussi.
Oui, il y a l'autre grand-père qui, lui, il a fait le développement inverse. Lui, qui venait d'une petite famille de menuisiers, de gens très modestes, et qui, avec la prise de pouvoir de Hitler, a obtenu un travail, un petit standing de vie. Il a pu, la première fois, passer ses vacances de ski en Autriche. La vie a commencé dans ces années-là. Ma grand-mère m'a toujours dit, les plus belles années, c'était, pour elle, la fin des années 30. En préparant ce livre, j'ai regardé les albums de photos de ma grand-mère, et on voit, en rigolant à la plage du Wannsee en 39. Et pour moi, 39, c'est... Il y a tout un film dans ma tête qui se met en marche, mais c'est toujours le...
Pour moi, Wannsee, c'est pas la plage, c'est la conférence.
Oui, c'est la conférence. Et je me suis rendu compte que je me suis tellement identifié à l'histoire de l'autre grand-père que je supportais mal l'histoire de ce grand-père-là. Et en fait, l'histoire de ce Vernin, c'est qu'il est devenu sous-officier de la Wehrmacht, arrêté à la fin de la guerre, et il était un petit nazi qui est devenu un petit staliniste. Avec le même enthousiasme qu'il est devenu un petit nazi au Troisième Reich, il est devenu un communiste dans la RDA.
Et c'est vraiment un cas très, très typique pour cette génération en RDA qui a obtenu la possibilité de traverser l'ancienne frontière idéologique et devenir antifasciste et oublier tout le passé en construisant le socialisme. Et il était très loyaux et il faisait tout pour la construction de la RDA.
Et donc les deux grands-pères ont commencé à construire le socialisme. Ça montre aussi la diversité des gens qui, à l'époque, faisaient partie de cette génération fondatrice. Ce qui m'a intéressé le plus, c'était de comprendre où cette énergie que ces deux grands-pères avaient, cet enthousiasme, comment il a pu se perdre si vite? Comment cet élan qu'ils avaient dans la génération de leurs enfants, il y avait une bonne partie de cette énergie qui a disparu? Et dans ma génération, moi, j'étais content quand c'était fini. Et je me suis posé la question, comment, dans trois générations, cet État a pu se perdre comme ça? Comment cette énergie, cette crédibilité morale, tout ce qui a constitué, à juste titre, cette génération de pères fondateurs a pu disparaître? Et je crois qu'on peut bien expliquer ça à travers de notre famille.
Alors toi, tu l'as vécu, cette chute du mur, alors non?
Ah oui, je l'ai vécu. J'ai regardé le soir avec ma copine, on a regardé la télé, et on a vu un présentateur dire que les portes du mur étaient grandes ouvertes. Ça me paraissait invraisemblable, mais on est tout de suite descendu dans la rue, et on a vu beaucoup d'autres gens qui sont aussi descendus dans la rue, qui visiblement avaient regardé les mêmes informations de l'Ouest, bien sûr. Et quelqu'un nous a pris dans sa voiture... D'ailleurs, quelqu'un qui avait des mains qui tremblaient tellement qu'on avait peur qu'il fasse un accident avant qu'on arrive au mur. Et on est arrivé là, et bien sûr, les portes n'étaient pas grandes ouvertes, mais fermées. Et un officier nous a dit, écoutez, il vous faut un visa. Hein, il vous faut un visa, mais on a ouvert cette nuit-là à l'Alexanderplatz, donc une grande place au centre de Berlin, la maison des voyages, ce qui était assez ironique à l'ouest, avoir une maison comme ça. Et il a dit, allez-y, là-bas, il y a des visas qui vont être distribués. Et là, ça montre à quel point on était quand même allemand de l'Est et discipliné et bête, qu'on est vraiment allé à Alexanderplatz en pensant qu'il y a des visas. Bien sûr, la maison des voyages était fermée. Et ils voulaient gagner du temps. Et après, on est rentré avec quelqu'un d'autre au mur. Et à ce moment-là, le mur était déjà ouvert au Checkpoint Charlie. Et on est passé entre les deux murs qui étaient illuminés par les grands phares. On est passé sur cette ligne blanche qui séparait l'Est et l'Ouest. Mais ce qui était bizarre à ce moment-là, c'est que je me suis dit, c'est vachement historique maintenant. C'est très, très important. C'est peut-être la journée la plus importante de ta vie. Mais j'étais incapable de le ressentir. J'étais incapable de... Il y avait quelqu'un qui voulait m'embrasser. Je ne pouvais pas. La seule chose que j'avais envie de faire, c'était fumer une cigarette.
Dans ton livre, tu parles de ta mère?
Je parle de ma mère, oui. Je parle d'une femme...
Eh bien, il en parle bien.
Oui,
bien sûr.
Oui, parce que moi, en fait, je me suis rendu compte seulement en écrivant ce livre, à l'aide des interviews que j'ai fait avec ma mère, à quel point ma mère était tombée amoureuse de cette RDA. Moi, je m'étais pas rendu compte de ça, comment cet état était important pour elle, parce qu'elle a, elle a rejoint le Parti communiste à 17 ans, hein. Elle était convaincue que c'était le seul système possible dans lequel on pouvait vivre. Et surtout, elle était un peu impressionnée dans ce qu'elle a appelé la prison de la loyauté, hein. Ça veut dire qu'elle, elle était un peu coincée entre son père et ce pays. Critiquer ce pays, ça voudrait
c'était
dire
critiquer son
critiquer
père.
Son père. Pas trahir son père. Ce pays, ça veut dire trahir son père. Son père. Et elle a mis jusqu'à la fin des années 80 pour se libérer un peu de ça.
Vous l'avez perdu cette fois, Annette ?
Oui, oui, j'ai perdu cette fois. Et c'était aussi une sorte de libération d'avoir perdu cette fois. Et d'une autre part, c'est vraiment une perte, la tristesse d'avoir perdu cette fois, qu'il y aura un jour un monde meilleur où tout est réglé et juste et tout ça. Cette tristesse se trouve pour moi encore dans les anciennes chansons. Je ne peux pas entendre, écouter ces chansons sans commencer à pleurer. Mais dans ma vie, aujourd'hui, ma vie actuelle, je n'ai pas besoin de cette foi. C'est mieux comme ça. C'est plus réaliste, plus pragmatique, mais je peux agir dans ma vie quotidienne avec toutes les valeurs que j'ai appris.
Mais tu m'avais dit, je me souviens, quand on a fait les interviews pour le livre, tu m'avais dit que tu étais toi-même surprise qu'elle t'a pas manqué comme ça. Tu pensais que tout était fini à la fin de la dernière.
Oui, j'avais peur que ça va me manquer et j'étais surprise. Comme j'étais à l'aise dans cette nouvelle société où je pouvais faire des recherches, publier, dire mon opinion. Et je crois le principal pour moi, c'était que le pouvoir de mon père était brisé après la disparition de la RDA. Et c'est pourquoi je me suis sentie vraiment libérée.
Ici en Allemagne, quand on a écrit un livre, on lit beaucoup au public.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire que c'est pas seulement un débat autour du livre, on commence par lire public et voilà. Ensuite on débat de la lecture qui a été faite.
Voilà. Et j'ai lu publiquement des passages de mon livre où j'ai décrit comment je suis devenu un Allemand de l'Ouest. Parce que moi j'avais 19 ans quand le mur est tombé. Et j'ai décrit un peu cette intégration de quelqu'un de l'Est à l'Ouest et comment on achète un appartement et comment on devient quelqu'un de cette nouvelle société. Et il y avait une femme qui s'est levée et qui m'a demandé « Mais est-ce que ça vous manque pas cette foi que votre mère avait, que votre grand-père avait ? Quelque chose qui dépasse la question de savoir si dans votre cuisine vous avez du plancher en bois ou en pierre ?» Et je ne savais pas grand-chose à dire à cette femme parce que je crois qu'elle a raison. On n'a plus cette conviction, on n'a plus cette foi, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on a aussi moins de mensonges.
Merci à tous et à toutes. Merci à Annette, Léo et Maxime. Léo, je rappelle le titre de son bouquin. En allemand, c'est Alte Deuer Herzbereit. Tenez votre cœur prêt qui sera prochainement traduit en français. C'était un reportage avec Guy Van Til. Merci à Dick Linde, Christelle Boucart, Marina Touyez, Isabelle Penaud. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. À la rubrique émission, là-bas, si j'y suis, à la technique, aujourd'hui, Philippe Duclos et Sandrine Laurent. Koye Nguyen et Raphaël Mouter d'en réaliser cette émission. Une émission bescheiden und genial, Sendung. Agnès Lebot nous assiste et Catherine Pinto attend vos messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37 01. 56 40 37 37.
Aujourd'hui, EDF Pro vous emmène chez Hervé, garagiste.
Les économies d'énergie, c'est nécessaire. Il y a des solutions pour ça. Mais encore faut-il avoir le temps de les chercher. C'est pourquoi j'ai appelé EDF Pro. Grâce à leurs conseils, on a réduit notre consommation d'énergie simplement, facilement et rapidement.
Pour bénéficier de solutions simples et économes en matière d'énergie, ayez le réflexe EDF Pro en appelant le 0810 333 776, prix d'un appel local depuis un fixe ou rendez-vous sur edfpro.fr. EDF, changez l'énergie ensemble.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
De plus en plus de gagnants loto, bonjour.
Salut Poulette, c'est moi.
Je t'ai déjà dit de pas m'appeler au travail.
Mais attends, j'en ai pas pour longtemps. Je suis avec les copains là, ils veulent pas me croire que je connais la dame de loto.
Ah.
Alors je vais mettre le haut-parleur.
D'accord.
Voilà, et tu leur dis pour le jackpot.
Mercredi, le jackpot est de 8 millions d'euros.
Oui.
Voilà, je raccroche.
Loto, la chance appartient à tout le monde.
Merci Poulette.
Alors dépêchez-vous, ce mercredi, le jackpot est de 8 millions d'euros. Montant total à partager entre les gagnants du premier rang. Française des Jeux. Et si on parlait recyclage des lampes basse consommation?
Moi, je rapporte toujours mes lampes usagées au magasin. Je sais que les commerçants sont tenus de les reprendre quand j'en achète des neuves, donc franchement, ça me complique pas la vie.
Rapportez vos lampes usagées en magasin dans les meubles de collecte prévus à cet effet ou déposez-les tout simplement à l'accueil. Plus d'infos cette semaine avec MacLesguy ou sur malampe.org.
Aujourd'hui est pourtant juste un jour comme les autres. Vous allez juste en cours sur votre scooter. Vous avez juste 5 minutes de trajet. Vous roulez juste trop près de cette voiture. Vous avez juste été tué. Sur la route, il n'y a pas de petite infraction. Respectons les règles. Sécurité routière, tous responsables. C'était un message du ministère du Développement Durable.
Il est 16h sur France Inter. On se retrouve demain à 15h pour là-bas, si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Mathilde Dehimy.
Air France, Euro Disney, Nissan et Adecco pointés du doigt par SOS Racisme. Dans son rapport, l'association dénonce la mise en place de fichiers ethno-raciales dans une quinzaine de grandes entreprises. Les salariés seraient ciblés selon leur origine ou la couleur de leur peau. La justice a demandé à SOS Racisme de prouver l'existence de tels fichiers. Un huissier mandaté s'est rendu ce matin à Euro Disney à Marne-la-Vallée. Le parquet ne devrait pas faire appel du renvoi de Jacques Chirac en correctionnel, c'est ce qu'indiquent plusieurs sources du judiciaire, mais Jean-Claude Marin, le procureur de la République de Paris, rendra sa décision officiellement demain. Il avait requis un non-lieu général fin septembre dans l'affaire des chargés de mission de la ville de Paris. L'ancien président est poursuivi pour détournement de fonds publics et abus de confiance. Le tour de vis de Nicolas Sarkozy ce matin au Conseil des ministres, le président de la République a rappelé le gouvernement à leur devoir de solidarité. Dernière visée, Ramayad, la secrétaire d'État au sport en désaccord avec sa ministre de tutelle Roselyne Bachelot sur la suppression du droit à l'image collective des sportifs. Valérie Pécresse a justifié cet après-midi ces différents couacs dans la majorité. Pour la ministre de l'enseignement supérieur, il n'y a pas de grande réforme sans grand débat. 30 euros, c'est le prix du mépris pour cet habitant de Laval. Il avait écrit « Casse-toi, pauvre con » sur une affiche au moment d'une visite de Nicolas Sarkozy en août 2008. La Cour de cassation l'a définitivement condamné à 30 euros d'amende avec sursis. Le manifestant débouté devrait faire appel auprès de la Cour européenne de justice. La date des prochaines élections régionales, le scrutin se déroulera les 14 et 21 mars prochains. Un incident électrique à la raffinerie Esso de Fos-sur-Mer a entraîné un nuage de poussière dans l'atmosphère. Le jardin des habitants alentour a été recouvert d'une fine couche blanche qui n'est pas dangereuse pour la santé. En Iran, des milliers de partisans de l'opposition ont manifesté ce matin en marge d'un rassemblement pour le 30e anniversaire de la prise de l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Un rassemblement de l'opposition interdit, lourdement réprimé à coups de gaz lacrymogène. La France demande de son côté des assurances pour le procès de Clotilde Reiss. Selon le Figaro, la jeune étudiante se rendra aux convocations du tribunal uniquement si la France reçoit l'assurance qu'elle ne sera pas emprisonnée. General Motors a finalement décidé de garder sa filiale Opel. Il y aura donc un plan de restructuration qui provoque la colère des Européens. En Allemagne notamment, c'est un camouflet pour Angela Merkel qui envisage de réclamer le remboursement de 1,5 milliard d'euros de crédit. Toyota lève le pied et renonce à la Formule 1. C'est le deuxième constructeur après Honda à quitter les circuits automobiles. Toyota n'a pas remporté une seule course depuis son arrivée en F1 en 2002. Le groupe annonce vouloir réduire ses coûts face à la crise économique. Les prix littéraires, le Médicis a été décerné ce midi à Dany Laferrière, écrivain canadien d'origine haïtienne, pour L'énigme du retour chez Grasset. Le prix du roman étranger revient à Dave Eggers pour Le Grand Quoi.
Demain, à
partir de 21h, concert exceptionnel de Césaria Évora sur France Inter. Une soirée présentée par Laurent Lavige.
Césaria, bonsoir. Est-ce que je peux vous faire un bisou?
Césaria Évora, en live.
Merci.
Un concert événement enregistré dans les studios de France Inter. À écouter demain à partir de 21h.
France Inter et la MC93 à Bobigny présentent, du 7 novembre au 6 décembre, 25 ans du répertoire de Lev Dodin. L'histoire du théâtre Mali de Saint-Pétersbourg en 8 spectacles. Abramov, Dostoïevski, Tchekhov, les grands noms de la littérature et l'histoire de la Russie du XXe siècle, joués par la troupe d'exception de Lev Dodin. À retrouver dans les émissions de France Inter.
France Inter.
La différence.
16h04 sur France Inter, l'heure de retrouver Frédéric Lodéon. Bonjour.
Bonjour Mathilde. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Est-ce que vous connaissez cette fameuse blague russe? Qu'est-ce que c'est qu'un quatuor en Russie? Ben, c'est un orchestre qui revient de tournée. Sous-entendu, ils sont partis à plus de 100 et ils rentrent à 4. Et à l'époque, je parle à l'époque de Brejnev, Brejnev en a eu assez un jour. Et comme il y avait beaucoup de musiciens juifs qui partaient pour aller en Israël, il a renvoyé tous les juifs des orchestres. Et un seul chef s'est opposé à cette mesure. Il n'était pas juif lui-même, c'était Yevgeny Svetlanov. Il a perdu sa place à ce moment-là. Il a retrouvé après de beaux emplois. Mais enfin, bon voilà, il a été débarqué. Ben, sur cet événement, quelques-uns adjacents, un film très passionnant vient de sortir, ça s'appelle Le Concert, c'est à voir, et ça raconte justement une histoire d'un chef qui a été viré, qui a été démissionné, entre guillemets, parce qu'il avait protégé des musiciens, et ce chef, du coup, est devenu un homme de ménage, et un jour, il intercepte un fax qui invite l'orchestre du Bolchoï à se produire à Paris, au Théâtre du Châtelet. Alors, il prend ce fax et puis il répond et puis il reconstitue un orchestre avec tous ses amis qui ont été licenciés autrefois et ils sont devenus toutes sortes de choses, des ménageurs, il y a un type qui est ambulancier, enfin, il y a toutes sortes de personnages assez étonnants, quelques bras cassés, ce qui est assez difficile pour jouer de la musique, mais enfin c'est une façon de parler, et puis il constitue cet orchestre de pieds nickelés et il va débarquer à Paris, je raconte pas la suite, mais enfin c'est un film réalisé par Radu Mihailanu qui est, paraît-il, très très passionnant. J'en ai vu les extraits, pas tout, mais j'irai le plus vite possible. Mélanie Laurent joue une magnifique violoniste, elle a beaucoup travaillé pour se faire, c'est pas facile, même d'imiter le jeu d'un instrument, donc bravo. Et puis ça nous concerne, évidemment, il s'agit de musique. Alors ce chef que vous verrez au cinéma, qui n'est pas... il est nommé différemment, mais j'ai dit que ça pouvait être, c'était certainement Yevgeny Svetlanov, mais il a existé, on va d'ailleurs entendre son interprétation, par exemple, d'un extrait du ballet Raymonda d'Alexandre Glazounov, Gallo. Gallo tiré du ballet Raymonda d'Alexandre Glazounov, interprété par Yevgeny Svetlanov avec l'orchestre du théâtre Bolchoï, on dit en français. Donc cet orchestre qui est évoqué dans le film Le Concert qui sort aujourd'hui. Et Svetlanov adorait diriger des œuvres peu connues. Il a même imposé une fois au Japon une pièce de Kalinnikov, la deuxième symphonie